Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'homicide d'une mineure. Une affaire judiciaire tragique du début des années 2010 dans laquelle Agnès Marin, une interne du collège de Chambon-sur-Lignon, est violée, puis assassinée par un élève du même établissement, Mathieu Moulinal. Un vrai massacre perpétré par un mineur, pourtant déjà violeur et récidiviste. Le Chambon-sur-Lignon, dans la Haute-Loire en Auvergne, niché dans les sapins à 1000 mètres d'altitude, un village réputé pour son bon air, abrite le Collège international de Sévenolles. L'établissement, sous contrat avec l'État, accueille des exclus du système scolaire. 120 élèves de 13 à 18 ans venus du monde entier. Cet après-midi du mercredi 16 novembre 2011, les internes ont comme chaque mercredi un temps libre de sortie. Ils descendent au village flâner un peu. Ils doivent retourner à l'internat à 16h30. Les surveillants font appel pour inspecter si tous les jeunes sont bien rentrés à l'heure convenue. Une élève manque à l'appel. Agnès Marin, 13 ans, la plus jeune de l'internat. Ses amis et la direction du collège-lycée également s'inquiètent. Agnès n'est pas le genre de manquer à l'appel ou de se faire retarder par quoi que ce soit. On la cherche, mais on ne la trouve pas et elle ne répond pas au téléphone. La surveillante appelle Estelle, une de ses copines qui habite au Chambon. Cette dernière dit qu'Agnès était avec elle l'après-midi, puis elle est partie vers 16h30 pour rejoindre l'établissement. À 17h, toujours pas de traces d'Agnès. La direction de l'établissement prévient les gendarmes qui viennent très rapidement et fouillent torches en main les alentours, notamment les bois, en compagnie d'autres élèves, de professeurs et d'habitants du village. La nuit tombe, mais toujours aucune trace d'Agnès. On prévient les parents et l'inquiétude devient de plus en plus profonde. Le lendemain, très tôt, la gendarmerie renforce les équipes de recherche. L'ambiance est lourde dans le collège, les élèves et les professeurs n'ont pas dormi de la nuit. On se demande ce qui a bien pu arriver. Estelle, l'amie d'Agnès, la dernière à l'avoir vue, avoue finalement qu'elle n'a pas dit la vérité. C'est Agnès qui lui a demandé de la couvrir et de raconter qu'elle était avec elle si le collège-lycée l'interrogeait. Pourquoi ? Elle ne le sait pas. Les gendarmes sont furieux. Agnès a en fait disparu entre la fin du déjeuner, 12h30, et l'heure de retour à l'internat, 16h30. La disparition n'est pas normale et ils ont perdu beaucoup de temps à cause de ce mensonge. La tension monte et les recherches s'élargissent. Est-ce une fugue ? Un accident ? Un enlèvement ? Les gendarmes conseillent à Monsieur Marin, le père d'Agnès, de prendre contact au plus vite avec des journalistes et de diffuser un avis de recherche à l'échelle nationale. Les battues dans la forêt continuent et une équipe de gendarmes se dirige au village de Chambon pour interroger les habitants. On fait du porte-à-porte et on interroge tous les villageois. Personne n'a rien vu. Dans le collège, les élèves remarquent qu'un de leurs camarades est rentré le soir du quartier libre avec des griffures sur le visage. Quand ils l'interrogent, ils s'énervent et les ignorent. Trouvant cela suspect, les élèves informent les gendarmes. L'élève en question, un certain Mathieu, âgé de 17 ans, est interne au lycée. Les gendarmes l'interrogent et il répond avec un air détaché en jouant au yo-yo. Pour expliquer ses griffures, il raconte qu'il a fumé un très gros pétard, à bas de tripé, et qu'il est tombé dans les ronces. Les gendarmes passent son nom au fichier, rien. Lors de la perquisition de sa chambre, il tombe sur un jean caché avec des taches rougeâtres, du sang apparemment. Mais là aussi, Mathieu a une explication. Ce sont les traces de sa chute, tout simplement. Mathieu est tout de même placé en garde à vue. Les gendarmes restent surpris de son attitude détachée face aux questions posées. Après une nuit dans la cellule, il change de version. Il explique de lui-même avoir passé son mercredi après-midi avec Agnès à fumer du shit. Ils se sont disputés, puis ont cherché des champignons hallucinogènes. Mathieu se souvient avoir vomi et être tombé dans les pommes avant de rentrer à l'internat. Mathieu devient le dernier à avoir vu Agnès et sa version n'est pas du tout crédible. On procède à des analyses de sang pour voir si celui trouvé sur le pantalon est bien à lui. Il n'a consommé aucun produit stupéfiant. Pas un seul. Donc il ment, Mathieu devient suspect. On le réinterroge avec beaucoup plus de zèle et on le confronte à ses mensonges. Mathieu finit par consentir à dire les choses qui se sont passées dans la forêt. Il s'est disputé avec Agnès et l'a poussé dans un ravin. C'est à ce moment précis que son avocate présente pendant la garde à vue demande aux gendarmes de la laisser seule avec lui pour qu'elle puisse discuter en tête-à-tête avec Mathieu. Ils acceptent, ayant toujours l'espoir de retrouver Agnès vivante, et si ça peut aider à gagner du temps, pourquoi pas. Une fois les gendarmes de retour dans la pièce, Mathieu annonce qu'il va les emmener où se situe le corps. Il est un peu plus de 19h. À la lumière des lampes torches, les gendarmes découvrent finalement le corps d'Agnès Marin, à moitié calciné, le pantalon baissé au fond d'un ravin. Mathieu l'a tué. C'est l'horreur absolue. Il avoue tout. Ils se sont disputés et il a été pris d'une pulsion. Il a bâillonné Agnès, a attaché ses mains avec la ficelle de son yo-yo et l'a violée, puis frappé jusqu'à la mort. Ensuite, il a aspergé son corps d'essence et avec un briquet, il y a mis le feu. À 16h30, il est rentré à l'internat. L'autopsie démontre la présence de 17 coups de couteau portés dans le thorax et à la tête de l'adolescente. L'ADN d'Agnès est retrouvé dans la tache de sang présente sur le jean de Mathieu. Les gendarmes sont sidérés. Un jeune garçon d'à peine 17 ans, de bonne famille, dans un lycée UP, vient de faire l'impensable. Et il avoue tout simplement, avec l'air calme et détaché, comme s'il récitait sa leçon. En plus, Mathieu a tout prémédité. Il a mis un couteau, un briquet, de l'essence et des cordes dans son sac à dos avant de rejoindre Agnès. Sous le choc de la nouvelle, la famille d'Agnès, les élèves du collège, la direction de l'établissement et le village de Chambon-sur-Lignon ne sont pas au bout des mauvaises surprises. Le lendemain, de la bouche du procureur lui-même, on apprend que Mathieu est un récidiviste. Il a déjà violé sous la menace une amie d'enfance en août 2010. Et dans l'attente de son procès, il a été placé dans un internat mixte. Incroyable, une folie. Comment est-ce que les autorités ont pu permettre une chose pareille? Et la direction de l'internat était-elle au courant? C'est impensable d'accepter une chose aussi grave et c'est pire que d'être dans l'ignorance. La colère et l'indignation est telle que des enseignants, parents et camarades d'Agnès ont participé à une marche blanche et silencieuse à Chambon-sur-Lignon en mémoire de la collégienne, amie et fille. En tête du cortège, la mère Eliane Vauquiez-Motte et son fils Laurent Vauquiez, alors ministre de l'enseignement supérieur. Le 26 novembre 2011, Agnès Marin est inhumée au Père-Lachaise, le jour même de ses 14 ans. Quelques centaines de proches, dont de nombreux adolescents, le visage grave et une rose blanche à la main, ont assisté à Paris aux obsèques de la jeune Agnès. Les obsèques se déroulent dans l'intimité. Le père d'Agnès, très affecté et tenant sa femme par le bras, est arrivé avant la célébration, entouré par des proches. À l'entrée de l'église étaient disposés des dizaines de bouquets, dont l'un accompagné de l'inscription « Collège Sévenol ». Il le prend et le jette par terre. On sort le dossier de Mathieu, une lettre manuscrite apostrophée par des experts psychiatres et jointes. Ils indiquent que Mathieu ne souffre d'aucune pathologie et qu'il n'est pas dangereux. À l'émotion succède alors la colère dans le village. Le retentissement est considérable lorsque le public apprend que le viol et le meurtre sont perpétrés par un adolescent interne dans le collège et qui a déjà commis, selon un modus operandi similaire, une année auparavant. Le directeur du collège Sévenol tente maladroitement de défendre sa réputation en affirmant avoir reçu longuement l'accusé préalablement à son inscription. Il nie avoir eu connaissance du passé de Mathieu, avant de finalement reconnaître la vérité. Les parents de Mathieu ne lui ayant pas caché l'agression sexuelle de 2010. Il prétendra ensuite n'avoir pas compris que Mathieu était sous contrôle judiciaire. De son côté, la protection judiciaire de la jeunesse s'abrite derrière le secret professionnel et rejette la responsabilité des faits sur la juge des libertés et de la détention chargée de la première affaire de viol, ainsi que sur les parents du meurtrier. Il apparaît aussi que la première expertise psychiatrique avait été bâclée, ayant été confiée à un médecin ne maîtrisant pas la langue française, puis à un infirmier et enfin à un psychothérapeute sans diplôme reconnu. Le dossier de Mathieu présente une succession de négligences tragiques que personne n'arrive à assumer. Claude Guéant, alors ministre de l'Intérieur, monte au créneau pour demander une sanction exemplaire. Le procès a lieu en 2013 à la cour d'assises des mineurs du Puy-en-Velay. Mathieu Moulina est assis silencieux dans son box. C'est un assez beau jeune homme, au visage complètement lisse, avec de larges lunettes noires qui mangeaient une partie de son visage. L'air impassible, il semble détaché, s'ennuyant à mourir. Il a même bâillé une fois. L'avocate générale a dans son réquisitoire qualifié l'inscription du jeune homme au collège-lycée Sevenol d'insulte au bon sens, revenant aussi sur les carences dans le suivi judiciaire, mais aussi psychologique et psychiatrique du jeune homme. Le rapport qui a conclu à la non-dangerosité de Mathieu a été contredit par celui de deux autres médecins évoquant une dangerosité majeure et une jouissance de destructivité. Ayant écarté toute excuse de minorité, le tribunal condamne Mathieu à la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'agit là d'une peine rarissime pour un crime commis avant l'âge de 18 ans. Les experts psychiatriques qui témoignent à l'audience décrivent une personnalité psychotique de type schizoïde avec une perversité et une dangerosité marquées. La défense ayant fait appel du jugement, Mathieu est rejugé en septembre 2014 par la cour d'assises du Puy-de-Dôme, et ce à huis clos. Le verdict est confirmé. En février 2014, les parents d'Agnès portent plainte contre l'État pour faute lourde. En juillet 2015, le Conseil supérieur de la magistrature blanchit la juge d'instruction de Nîmes qui avait libéré Mathieu lors de son premier viol. L'affaire porte un coup fatal au collège Sevenol, déjà en difficulté financière depuis plusieurs années. Du fait d'une chute des inscriptions, l'établissement ferme définitivement ses portes en juillet 2014. Dans un jugement rendu le 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris condamne l'État pour négligence fautive assimilable à une faute lourde, du fait d'une remise en liberté du violeur trop rapide, sans prise de connaissance d'avis d'experts, sans prise de l'avis de la protection judiciaire de la jeunesse et du fait de son placement inapproprié dans un collège mixte. L'État est condamné à verser 185 000 euros de dommages et intérêts à la famille d'Agnès. Bien triste compensation devant la perte de la prunelle de leurs yeux, une petite fille pleine de vie qui s'appelait Agnès Marin. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.